Bonjour, ravi de vous retrouver. Après nos deux émissions consacrées à l'actualité de l'année dernière, l'année 2018, et tous mes voeux encore pour 2019.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Nous allons donc reprendre notre revue hebdomadaire de l'actualité, toujours grâce aux reportages des correspondants et des envoyés spéciaux de la radio. Pour cette première émission, nous partirons pour la RDC. Après la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle, pour le Gabon, les États-Unis ou bien encore au Cambodge. Notre invité ce samedi est Jean-Pierre Filu, professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po. Il vient d'écrire « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». C'est un livre publié aux éditions La Découverte. Bonjour Jean-Pierre Filu.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. La dernière fois remonte à l'année dernière, je crois. Nous avions parlé, hélas, de la Syrie. Et nous allons peut-être encore en dire un mot dans cette émission. Ce livre que vous venez de publier, que je recommande, est terrifiant, il me semble, sur Israël aujourd'hui, à travers Benjamin Netanyahou. Je cite une phrase du livre qui est écrit avec une plume acérée. « On ne peut être que perturbé par l'alliage de perversité et de médiocrité qui caractérise le personnage principal, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, qu'un peuple aussi pétri d'intelligence, de talent et d'énergie que le peuple d'Israël se soit livré et se livre encore à un tel battleur est profondément troublant. » Dites-moi.
Oui, c'est effectivement profondément troublant. Quand j'ai commencé cette recherche sur Netanyahou, sur son parcours, eh bien, je ne pensais pas trouver autant d'éléments à charge, mais je ne pensais surtout pas que à travers lui, parce qu'en fait, c'est un prétexte, Netanyahou, même si c'est un gros prétexte, je pourrais dévider non seulement l'histoire d'Israël depuis 70 ans, mais l'histoire du sionisme depuis plus d'un siècle. Et c'est une personnalité qui nous apprend énormément sur l'État d'Israël, son présent et peut-être son avenir.
Alors c'est un homme politique, c'est aussi un homme tout court qui lui-même est sujet à controverse.
Il a
sa personnalité.
Voilà, alors il faut savoir, et c'est pour ça qu'il faut toujours mesurer la distance avec laquelle on parle de Netanyahou, qu'il alimente les controverses. Il veut être clivant, polarisant, il veut être sujet à débat. Et comme par exemple pour Donald Trump, j'ai ses opposants trop souvent le caricature, font de lui un être grossier, incontrôlable. Moi, j'ai voulu le prendre très au sérieux. Il a un parcours tout à fait impressionnant, hein. 5 ans dans les forces spéciales, dans les commandos dont on ne parle pratiquement jamais, alors qu'en 1968, il participe au raid tristement fameux sur Beyrouth qui détruit l'aviation civile libanaise, et toute une série d'éléments de sa construction politique, personnelle, intellectuelle, qui nous en apprennent beaucoup sur ce qu'Israël est devenu sous son gouvernement.
Et vous notez, Jean-Pierre Filu, que c'est un homme tout puissant depuis 2009, depuis qu'il est à nouveau au Premier ministre. Il l'avait été quelques années auparavant.
Effectivement, et c'est là où on peut utiliser le qualificatif d'illibéral que Orban, en Hongrie, a revendiqué explicitement. On voit avec Netanyahou une volonté de fragmenter l'opposition, la cooptant, en la divisant, en la criminalisant, en l'attaquant, en la brutalisant. Mais ça ne s'arrête pas à cela. Il y a l'idée que j'ai été élu, donc j'incarne la souveraineté populaire et le débat démocratique est clos. Toutes les institutions intermédiaires, la Cour suprême, la justice, mais aussi les médias et même la police, sont accusés de mener un complot contre lui. Et aujourd'hui, cette accusation est encore plus intense car Netanyahou a choisi, sans doute pour échapper à des affaires de corruption très graves, de convoquer des élections anticipées pour le 9 avril qu'il veut transformé en référendum sur sa personne.
Alors justement, Jean-Pierre Filu, partons maintenant pour Israël. En pleine campagne législative, le Premier ministre israélien a fait une allocution solennelle ce lundi soir à la télévision du pays. Ça cible les enquêtes judiciaires, donc pour corruption qui le vise. Benjamin Netanyahou, candidat à un cinquième mandat, dénonce régulièrement une chasse aux sorcières. Ce lundi, il a donc réclamé une confrontation avec les témoins à charge, mais son intervention souligne avant tout son inquiétude quant à l'impact de ces enquêtes à Jérusalem, Guilhem Deltaï.
L'intervention devait être dramatique selon le porte-parole de Benjamin Netanyahou. Mais les commentaires des analystes sont le plus souvent très critiques. La locution était si mauvaise qu'elle ne pourrait pas être sélectionnée pour les Daytime Emmy Awards, écrit l'un d'eux sur Twitter, en référence à des récompenses télévisuelles de deuxième catégorie aux États-Unis. Au cours de cette courte allocution, le premier ministre israélien a une nouvelle fois affirmé son innocence et une fois de plus, il a attaqué la manière dont l'enquête a été conduite. Seuls éléments neufs de cette intervention, Benjamin Netanyahou a publiquement demandé à être confronté aux témoins à charge dans les enquêtes le visant, une demande qui, dit-il, lui a été refusée à deux reprises par les enquêteurs. Qu'ont-il à cacher, interroge-t-il, et il affirme que des témoins de la défense, eux, n'ont pas été entendus. En tête dans les sondages, Benjamin Netanyahou dénonce une tentative de le faire tomber autrement que par des élections, mais sa critique frontale des enquêtes rejetées dans la soirée par le ministère de la Justice trahit son inquiétude. Une mise en examen pourrait changer la donne. Pour lui, son principal adversaire n'est pas un rival politique, ce sont les éventuelles poursuites judiciaires.
Alors Jean-Pierre Filu, je me replonge dans votre livre et je voudrais de redonner aux auditeurs un goût de votre style, enfin du style du livre. Il n'y a eu dans l'histoire qu'un seul Watergate, un seul Iran Gate, un seul Monica Gate, un seul Angola Gate ou un seul FIFA Gate. En revanche, le premier Bibi Gate impliquant Netanyahou a éclaté dès 1993 et il a été suivi de deux répliques désignées du même nom. Donc c'est une vieille affaire.
Donc les Israéliens ont abandonné le terme de Bibi Gate parce qu'il y en aurait trop, on en serait à une dizaine. Donc aujourd'hui on parle des affaires 1000, 2000 et 4000. Il faut savoir que ce sont des affaires très graves, hein, où la police israélienne a recommandé la mise en examen du Premier ministre pour corruption, fraude et abus de confiance, et que la décision aujourd'hui est dans les mains du procureur général Mandelblit, qui est un ancien collaborateur de Netanyahou, qui était le secrétaire administratif du premier ministère. Donc on peut difficilement l'accuser d'être un ennemi politique. Ce qui est fascinant mais aussi accablant, c'est que on a quelqu'un qui est injusticiable. Il se trouve qu'il est Premier ministre et qui, au lieu d'accepter le cours de la justice, prend à partie ses concitoyens et surtout ses électeurs et qui jette un doute sur la justice. La justice, ça n'est pas un débat télévisé entre un accusé et des témoins. La justice est une procédure qui doit être respectée. Et j'ai découvert en faisant ce livre qu'en fait, Netanyahou s'était octroyé une paix judiciaire pendant les 5 premières années de son retour à la tête du gouvernement, donc de 2009 à 2014, en nommant comme ministre de la Justice et comme procureur général deux de ses anciens avocats personnels. Est-ce qu'on peut imaginer une telle confusion des genres ? Donc effectivement, à ce moment-là, pas d'affaires, vu que ce sont ses avocats qui sont aux commandes. Et aujourd'hui, les affaires éclatent, elles sont très graves.
Alors dans ce livre, vous parlez de l'itinéraire de Benjamin Netanyahou avant qu'il devienne Premier ministre, et vous notez l'influence qu'a eu son père.
Son père a une influence capitale, il est mort à 102 ans, il y a peu de temps, il a beaucoup impressionné son fils, d'autant plus que l'aîné, Jonathan Netanyahou, est un héros de l'État d'Israël qui était tombé en 1976, les armes à la main, lors de la délivrance des otages sur l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. Et donc Benjamin Netanyahou, le père de Jonathan et de Benjamin, est un historien obsédé par une fatalité du peuple juif qui ferait que, selon lui, je le cite, l'histoire du peuple juif serait une histoire d'Holocauste au pluriel. Ce qui fait que la Shoah perd un peu de sa singularité. Et d'ailleurs, on voit comment Benjamin Netanyahou instrumentalise l'histoire de la Shoah pour, si j'ose dire, nazifier ses opposants dès qu'il le gêne un peu trop.
Et d'ailleurs, il est le premier à le faire en tant que Premier ministre, d'ailleurs. Vous le soulignez, d'ailleurs, parce qu'il est d'une génération d'après.
Il est le premier chef de gouvernement israélien à être né en Israël, le premier à être né après la Deuxième Guerre mondiale et l'horreur incomparable de l'Holocauste. Et on le voit en 2015, il se trouve que j'ai encore rencontré récemment quelqu'un qui l'avait entendu, délégué au Congrès sioniste mondial à Jérusalem, qui a cru à une erreur de traduction, qui ne pouvait pas en croire littéralement ses oreilles. Parce que Netanyahou exonère Hitler de la responsabilité intellectuelle de la Shoah, fait comme si c'était une personnalité palestinienne en exil, Ajamin El-Husseini, par ailleurs un antisémite avéré, qui a parrainé l'organisation de d'unités SS dans les Balkans.
Le grand mufti de Jérusalem.
Le grand mufti de Jérusalem, titre d'ailleurs qui n'existait que pour lui, titre que lui ont donné les Anglais à l'époque, c'est une longue histoire. Mmh. Et donc comme si en novembre 1941, on est en pleine, ce qu'on appelle la Shoah par balle. Il y a déjà des centaines de milliers de Juifs qui ont été éliminés par arme à feu. Eh bien, soudain, ce serait un Palestinien qui aurait donné l'idée de brûler les Juifs, d'après Netanyahou. Alors, c'est non seulement un mensonge éhonté, on a le compte-rendu de l'entretien entre Hitler et Husseini, et rien de cela n'y apparaît, mais on voit en même temps que c'est une tentative donc d'assimiler les Palestiniens d'hier et d'aujourd'hui aux nazis, mais c'est aussi, à la veille d'un déplacement en Allemagne, une tentative de déstabiliser Angela Merkel. On est en 2015, pratiquement 1 million de réfugiés, l'extrême droite qui monte, et c'est Merkel elle-même qui doit dire nous assumons la responsabilité historique de la Shoah.
C'est une situation incroyable quand on y réfléchit.
Complètement incroyable. Et pour un historien, c'est évidemment scandaleux. Et pour un historien israélien comme mon collègue Eli Barnavi, qui a été ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002, c'est ce qu'il appelle, je le cite, une prostitution de la Shoah. Fin de citation.
Sept jours dans le monde.
Destination les États-Unis, Jean-Pierre Filu, avec le shutdown, la paralysie partielle de l'administration à cause d'un désaccord profond entre les démocrates, désormais majoritaires, donc à la Chambre des représentants, et Donald Trump au sujet de la construction du mur avec le Mexique. Les premiers pourparlers entre le président et l'opposition ont tourné court mercredi et jeudi. Le président américain était en quelque sorte au pied du mur au Texas, le long du Rio Grande. Reportage d'Éric de Salve.
Sur la route de l'aéroport de McAllen au Texas, quelques milliers de manifestants se sont réunis pour accueillir Donald Trump. D'un côté de la route, ses partisans, casquette Make America Great Again sur les têtes, ils sont venus soutenir le mur anti-immigration voulu par le président.
Ils viennent ici et ils veulent tout gratuitement. Nous devons arrêter cela. Il nous faut ce mur et nous aimons notre président Trump.
Sur le trottoir d'en face, moins nombreux, les anti-Trump chantent eux leur opposition au mur.
Les murs ne font que nous diviser, techniquement ils ne marchent pas. Ce sont des symboles de haine et d'ignorance, et ces symboles, ce n'est pas nous.
C'est pour défendre son mur que Donald Trump a fait le déplacement sur la frontière sud avec le Mexique, le long du fleuve Rio Grande, très emprunté par les trafiquants. Dans une base de la police frontière, devant des saisies d'armes et de drogue, le président américain associe encore une fois immigration clandestine et criminalité et interpelle son opposition démocrate.
Ils disent qu'un mur c'est médiéval. Eh bien, une roue aussi c'est médiéval. La roue est même plus vieille que le mur. Et pourtant, vous savez quoi? Une roue ça marche et un mur aussi ça marche. Le gouvernement est bloqué parce que les démocrates refusent de financer la sécurité de la frontière. C'est aussi simple que cela.
En début de soirée, Donald Trump a redécollé vers Washington où le blocage avec les démocrates sur la question du financement de son mur est encore total.
Et c'est à suivre dans nos journaux, évidemment. Et à propos des États-Unis, je vous recommande d'écouter notre magazine Idées demain dimanche. Notre invité sera le philosophe et politologue américain Dick Howard, avec lequel nous parlerons de l'évolution de la société américaine. L'actualité internationale, c'est aussi au Venezuela, l'investiture pour un deuxième mandat du président Nicolas Maduro. Et une fois n'est pas coutume, Jean-Pierre Filu, partons pour le Cambodge maintenant. Lundi, le pays commémorait en effet le 40e anniversaire de la chute des Khmers Rouges à Phnom Penh. Juliette Buchez.
C'est habillé de blanc que plus de 50 000 personnes ont assisté à la commémoration au stade olympique ce matin. Parmi eux, Ratana, il avait 10 ans lorsque le régime Khmer Rouge est tombé le 7 janvier 1979. Il assiste chaque année aux commémorations.
Le 7 janvier 1979 est une date historique importante. On nous a libérés du régime génocidaire. Les jeunes aujourd'hui savent qu'ils doivent connaître cette histoire.
Et dans la foule massée sur les gradins, la jeunesse est omniprésente. Au Cambodge, l'histoire des Khmer Rouges est au programme scolaire depuis seulement 10 ans. Ken a presque 17 ans et son lycée était invité à la cérémonie.
Nous devrions bien connaître cette histoire pour que le régime Khmer Rouge ne revienne pas.
En dehors du stade, dont l'accès se fait sur invitation, le 7 janvier, c'est surtout un jour férié comme un autre. Kunti a 68 ans. Elle est venue vendre ses légumes au marché voisin, comme d'habitude.
C'est important, très important, mais je suis pauvre, donc je ne peux pas rester à la maison.
Kunti accepte de parler ouvertement de son histoire, mais dans les autres allées du marché, la simple évocation des Khmer Rouges suscite l'inquiétude et des regards fuyants. Au Cambodge, le 7 janvier marque la fin du régime de Pol Pot, mais pour certains, il marque avant tout l'invasion du Cambodge par les Vietnamiens, dont l'armée est restée 10 ans sur place.
Une semaine d'actualité.
Et revenons maintenant dans votre région, si j'ose dire, Jean-Pierre Filu, avant de vous écouter à nouveau. L'autorité palestinienne, qui avait repris en main l'unique poste frontière de la bande de Gaza, hors du contrôle israélien, a décidé de retirer ses employés, c'est à Rafah précisément, une mesure qui marque l'échec du processus de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Les explications de notre correspondante dans les territoires palestiniens, Marine Vlaovic.
Rafah était devenu l'un des symboles de la réconciliation Fatah-Hamas. Mais plus d'un an après la signature des accords du Caire, le départ des fonctionnaires de l'autorité palestinienne du poste frontière signe l'arrêt de mort de ce processus, déjà bien mal en point en raison du bras de fer que se livrent les factions rivales. Un abandon qui fait suite à une vague d'arrestations de militants du Fatah par le Hamas ces derniers jours. Certains employés auraient subi des intimidations. Le mouvement islamiste dénonce de son côté une mesure punitive de plus à l'encontre de la bande de Gaza, car le contrôle du poste frontière par l'autorité palestinienne était une condition imposée par l'Égypte pour sa réouverture permanente. Officiellement, le terminal est fermé aujourd'hui en raison de la fête de Noël orthodoxe. Désormais repris en main par le Hamas, il est possible qu'il n'ouvre qu'au compte-gouttes ou reste désespérément fermé, tandis que les divisions Fatah-Hamas ne cessent de se creuser.
Et l'Égypte semble avoir décidé de rouvrir ce point de passage. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Filu, qui vient d'écrire « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste », un livre choc publié aux éditions La Découverte. Beaucoup d'auditeurs nous ont écrit au sujet d'Israël, Jean-Pierre Filu. Alaï Touré, qui nous écoute à Dakar, se demande ce que va devenir Israël avec l'Iran et la menace iranienne, selon lui, et d'autres nouveaux ennemis potentiels. Modibo Oumar, lui, nous écrit ceci. Je pense à Donald Trump et au tout nouveau président du Brésil, principalement, à propos du rapprochement entre Israël et les régimes populistes. Quant à Luc, qui nous écoute à Abidjan, à Cocody, lui trouve que la politique israélienne est assez remarquable. Donc, il y a une pluralité d'avis. On va reprendre toutes les choses que l'on a évoquées. D'abord, le mur. Ça signifie quelque chose en Israël.
Alors effectivement, il y a le mur Kariel Sharon, à partir de 2002, face à la deuxième intifada, a commencé de construire en territoire palestinien, en Cisjordanie. Et puis il y a le mur de Netanyahou, qu'on connaît moins bien, qu'il fait construire, à partir de 2011. Et ça, c'est entre Israël et l'Égypte, c'est dans le désert du Sinaï. Et là, c'est pour endiguer la vague de ce qu'on appelle en Israël les infiltrés. Donc, concrètement, des immigrés illégaux, dans leur très grande majorité, soudanais et érythréens.
Dont on va reparler d'ailleurs tout à l'heure.
Voilà. Ouais. Et donc, il y a cette obsession du mur, et c'est frappant de voir comment des thèmes qui ont été lancés, puis banalisés par Netanyahou, font aujourd'hui partie du lexique standard de Trump. On peut parler du mur, mais les fake news, Netanyahou en est un grand praticien bien avant Donald Trump. On a évoqué tout à l'heure le mensonge d'État sur la Shoah, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. En 2015, le jour des élections, donc en violation de toutes les règles de la campagne électorale, Netanyahou apparaît sur les réseaux sociaux en disant la gauche a affrété des bus pour amener des électeurs arabes pour changer le vote d'Israël. Dramatisant ainsi, il n'y a pas eu la moindre preuve de ce que de toute façon il n'aurait pas pu dénoncer s'il avait respecté l'arrêt de la campagne électorale. On pourrait multiplier les exemples. Donc à bien des égards, Netanyahou a fait du Trump avant Trump. Et c'est pour cela aussi qu'il faut le prendre au sérieux par rapport au populisme en général.
Alors, Trump, président d'un pays que Benjamin Netanyahou connaît remarquablement bien, depuis longtemps.
Oui, alors
il a même été en poste comme diplomate aux États-Unis.
Oui, avant cela, il a effectué une partie de ses études primaires et secondaires. Il a effectué ses études tout court aux États-Unis. Je consacre un chapitre d'ailleurs à Bibi l'Américain. Bibi, c'est le surnom affectueux que lui portent ses partisans. Hein. Il connaît intimement les États-Unis, mais comme son père d'ailleurs avant lui, tout le porte vers la droite, voire vers la droite dure. Alors que les Juifs américains sont massivement engagés du côté du Parti démocrate, ils avaient voté en 2008 à 80% pour Barack Obama. Ouais. Et donc, on voit en fait un divorce entre Netanyahou, entre Bibi l'Américain et les Juifs américains, et un pari qui est tout à fait stratégique sur les évangéliques, donc ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, une expression qui est toujours un peu problématique, cette droite dure du sud des États-Unis, initialement, maintenant dans tous les États-Unis, qui pourrait représenter le cinquième de l'électorat américain et qui le soutient de manière inconditionnelle parce que la politique d'un Netanyahou correspondrait à l'accomplissement des prophéties.
États-Unis, où Benjamin Netanyahou aime bien aussi, a beaucoup aimé faire des affaires, où il est en contact avec des milliardaires, où c'est un pays, lui qui, semble-t-il, aime l'argent, qui lui convient très bien.
Alors, ça a commencé quand il avait été mobilisé assez jeune pour faire des tournées de levée de fonds pour différentes institutions, puis pour son parti, le Likoud, en Israël. Il a compris qu'il avait un potentiel, justement, pour lever de l'argent. Donc, il a fini par en lever pour lui-même. Et il y a deux milliardaires américains qui ont été l'un après l'autre ses mécènes. Hein. D'abord, il y a Ronald Lauder, lié au groupe cosmétique du même nom, qui est président du Congrès juif mondial depuis 2007, et qui est aujourd'hui devenu un des plus virulents de Netanyahou.
Ouais.
Donc, il l'a troqué pour Sheldon Adelson, grand patron, ce qu'on appelle les moguls aux États-Unis des casinos à Las Vegas, qui est un soutien inconditionnel de Trump, qui a largement contribué par son immense fortune, hein, c'est plus de 30 milliards de dollars, l'élection de l'actuel président des États-Unis.
Alors on l'a constaté, Jean-Pierre Filu, en écoutant ce reportage sur le point de passage de Rafah, que plus que jamais, les mouvements palestiniens, les représentants des Palestiniens sont divisés. C'est du pain béni, si j'ose dire, pour Benjamin Netanyahou, qui joue là-dessus d'ailleurs.
Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un prétexte facile hein, pour justifier l'absence de relance des négociations, mais tous les responsables de la sécurité d'Israël, et j'en ai rencontré un certain nombre, considèrent que cette division entre la Cisjordanie et Gaza est une très mauvaise nouvelle pour Israël, de même que...
Donc le Hamas d'un côté et le Fatah de l'autre.
Voilà, et la mainmise du Hamas sur Gaza est en tant que telle une très mauvaise nouvelle pour Israël. Quant à l'Égypte, il faut rappeler ce paradoxe hein, que quand elle était sous la présidence d'un islamiste, Mohamed Morsi, en 2012, elle a pu faire une médiation réussie entre Israël et le Hamas qui a évité à Israël une opération terrestre dans la bande de Gaza, alors qu'en 2014, le président Sisi, du fait même de son hostilité viscérale à l'égard des islamistes, n'a pas pu effectuer de médiation, et le conflit sur Gaza a été le plus destructeur pendant 50 jours, et Israël s'est enlisé dans une opération terrestre qui a été épouvantable pour la population de Gaza, mais tout à fait inutile pour l'armée israélienne elle-même.
Une semaine d'actualité.
Jean-Pierre Filu, faisons une halte en France. Maintenant, France où le gouvernement durcit le ton face aux gilets jaunes. La répression est en quelque sorte à l'ordre du jour. C'est ce qu'Édouard Philippe a annoncé lundi soir sur TF1. Julien Chavanne.
C'est pas ceux qui remettent en cause les institutions qui auront le dernier mot.
Édouard Philippe aimerait bien mettre un point final au samedi de violence qui se succède depuis 7 semaines, en vain pour l'instant. Alors face à cette nouvelle menace, le Premier ministre veut de nouveaux moyens.
Les pratiques changent. Les méthodes utilisées par ceux qui veulent remettre en cause les institutions, je parle pas de ceux qui manifestent pacifiquement, ils sont pas du tout le sujet, mais ceux qui profitent de ces manifestations pour casser, pour caillasser, ils changent leurs pratiques. Et nous, on doit changer nos méthodes, du coup.
Une nouvelle loi est en préparation, annonce Édouard Philippe. Participer à un rassemblement non déclaré sera sanctionné. Être cagoulé pourra être passible de prison. Les casseurs seront fichés, interdits de manifester. C'est quasiment mot pour mot ce que proposait la droite au Sénat en octobre dernier contre les Black Blocs. À l'époque, La République En Marche avait voté contre et le gouvernement avait donné un avis défavorable. Aujourd'hui, la crise des gilets jaunes force l'exécutif à faire volte-face et à piocher dans les idées des Républicains. Cette proposition de loi sera discutée dans un mois à l'Assemblée, promet Édouard Philippe, contraint en attendant de se remettre encore une fois aux forces de l'ordre samedi prochain.
À suivre donc dans nos journaux. Durcissement donc, alors que le grand débat annoncé par le gouvernement a du mal, c'est le moins que l'on puisse dire, à se mettre en place. Et le retrait de Chantal Jouanneau, qui devait le chapeauter, retrait pour cause de salaire élevé, quelques 15 000 euros bruts mensuels, n'arrange pas les choses. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron avait essayé de tout baliser pour lancer le grand débat dans de bonnes conditions. Il avait décidé de le repousser au 15 janvier pour se donner du temps. Il avait allégé son agenda en réduisant à la portion congrue les déplacements à l'étranger et les cérémonies de vœux traditionnelles en début d'année, en maintenant seulement les vœux aux armées. Et puis la démission de Chantal Jouanneau, qui devait organiser le grand débat national, a tout chamboulé. Moins d'une semaine avant la date butoir du 15 janvier, le président se retrouve encore dans l'obligation de trouver un ou des remplaçants dans l'urgence. Et comme si cela ne suffisait pas pour sa première sortie publique de l'année, mercredi à Créteil, un comité d'accueil de gilets jaunes et de syndicalistes est venu rappeler à Emmanuel Macron que la crise n'était pas terminée. Seul point positif, pour la première fois depuis des mois, une enquête indique une amélioration de sa cote de popularité. Trop tôt tout de même pour parler d'embellie, d'autant que 70% des Français continuent de juger négativement son action. Avant d'entamer la semaine prochaine dans l'heure, sa tournée des régions à la rencontre des élus, Emmanuel Macron n'a toujours pas réussi à reprendre la maîtrise de la situation.
À noter aussi dans l'actualité l'ouverture à Bruxelles du procès du djihadiste français Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de la capitale belge en mai 2014. Suite d'une semaine d'actualité, Jean-Pierre Filieu, vous me disiez que les gilets jaunes apparaissent aussi en Israël ?
Enfin, il y a une tentative d'importation qui a tourné court, il n'était que quelques dizaines avec des gilets jaunes, mais c'est fascinant de voir comment c'est devenu emblématique. Dans l'Égypte voisine, on a anticipé, on a interdit purement et simplement l'importation de gilets jaunes pour ne pas avoir ce type de problème.
Alors la France est un pays qui a toujours intéressé Benjamin Netanyahou dans sa politique liée à l'immigration des Juifs. Lui qui considère, dites-vous, qu'un Juif c'est celui qui vit en Israël. Pour lui, donc, Benjamin Netanyahou, la France n'est pas n'importe quel pays.
Effectivement, c'est de son point de vue, j'insiste, de son point de vue, bien sûr. Le principal gisement d'immigration, donc d'alia en Europe occidentale, hein, et il a très souvent encouragé les juifs français à émigrer vers Israël, notamment lorsqu'il avait visité notre pays après la série d'attentats sanglants de janvier 2015, donc qui s'était ouvert par la tuerie de Charlie Hebdo, et qui s'était conclu par l'attentat antisémite de l'hypercachère à la porte de Vincennes.
Et les relations de Benjamin Netanyahou avec les présidents français qu'il a connus ont toujours été tendues, non ?
Elles sont complexes. En fait, quand on les prend dans la durée, hein, il a connu désormais quatre présidents, il s'accommode des rappels, des principes d'une paix durable que lui font les différents locataires de l'Élysée, donc l'idée de la solution aux deux États, Israël et la Palestine. Et puis il se rend compte qu'au fond, ces différents présidents ne sont pas prêts à beaucoup se mobiliser en faveur de cette solution. Concrètement, hein, en tout cas sûrement pas à faire des mauvaises manières à Netanyahou, donc ben il laisse dire, et puis il s'en accommode. Mais il faut quand même souligner que pour Netanyahou, l'essentiel se passe aux États-Unis. Il y a à la fois les milliardaires qu'on évoquait, mais il y a aussi, je dirais presque surtout, les milliards d'aides publiques qui sont versées à Israël. Il faut savoir que malgré les rapports exécrables qu'il avait avec Obama, celui-ci s'est engagé en fin de second mandat à augmenter encore et sur 10 ans, donc il a engagé ses successeurs, donc Donald Trump, l'aide annuelle versée à titre militaire par les États-Unis à Israël.
Donald Trump avec lequel Benjamin Netanyahou entretient une relation privilégiée.
Ah, c'est très très chaleureux, on surjoue l'intimité, on met en scène les marques d'affection, et c'est la première fois qu'un président américain, si j'ose dire, parle comme Netanyahou. Quand on prend certains discours de Trump, c'est du Netanyahou dans le texte, et évidemment il y a eu la double apothéose, donc transfert de l'ambassade des États-Unis.
C'est une date importante, effectivement.
Voilà, de Tel Aviv à Jérusalem, et retrait, donc sabordage de l'accord sur le nucléaire iranien. Et en même temps, le fait que Trump veuille se retirer du Moyen-Orient, qui vient de prendre tout le monde par surprise, à commencer par Netanyahou, en décidant un retrait pour le moins brutal de Syrie.
Le retrait qui a commencé d'ailleurs ces jours-ci avec du matériel,
bien sûr.
Donc il est effectif.
Là encore, faut prendre Trump au sérieux, comme il faut prendre Netanyahou au sérieux. Quand Trump dit que Israël peut se défendre par soi-même, non seulement il le pense, mais il va en tirer toutes les conséquences. Donc Netanyahou, et c'est là où l'idéologie peut l'aveugler, pour une satisfaction symbolique d'ampleur, hein, sur l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, a peut-être laissé filer l'essentiel, c'est-à-dire l'engagement durable des États-Unis au Moyen-Orient, de même que l'accord sur le nucléaire iranien, dont il pensait le pire, après tout brider le régime iranien, alors qu'au même moment, le même Netanyahou a laissé les Iraniens s'implanter en Syrie à la faveur d'une politique à très courte vue de Paris sur Bachar el-Assad, comme gage d'une stabilité relative à la frontière nord d'Israël.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez en 2019 à nous écrire, comme vous l'avez fait ces années précédentes. Je salue tout de suite Taïrou Diakité, qui nous écoute depuis longtemps à Mopti, au Mali. Bonjour à Luc, qui nous écoute à Abidjan, Josué à Bamako, Méchard à Bamako, également Sanogo à Pointe-Noire et Stanislas en République démocratique du Congo.
Une semaine d'actualité.
Jean-Pierre Filliu, partons pour l'Afrique, d'abord en République démocratique du Congo. Après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, vous avez suivi cet événement politique dans nos journaux et dans nos différentes éditions spéciales. Écoutez l'annonce de cette victoire par Corneille Nangaa, le président de la CENI, et le portrait du vainqueur Félix Tshisekedi, signé Vanda Marsadier.
Ayant obtenu 7 051 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi, dit-il au mot.
On le surnomme Fatshi. Difficile pour Félix Tshisekedi de s'émanciper de l'empreinte laissée par son père, Étienne, principale figure de l'opposition pendant près de 40 ans. Lui qui a créé l'UDPS en 1982, s'opposant frontalement au général Mobutu, puis au clan Kabila. Félix, lui, s'installe très tôt en Belgique, dès 1985. C'est là-bas qu'il étudie et obtient un diplôme en marketing et communication à l'Institut des carrières commerciales, diplôme dont certains contestent aujourd'hui encore l'authenticité. Même dans les rangs de l'UDPS, certains craignent que cela soit un jour utilisé contre lui. Toujours à l'étranger, au moment de la disparition de son père, en février 2017, il est simple secrétaire national de l'UDPS chargé de l'extérieur et il se retrouve propulsé à la tête du parti. Longtemps pressenti pour être le candidat unique de l'opposition, il doit finalement céder la place à Martin Fayoulou à l'issue des négociations de Genève en novembre dernier. Il fait dissidence dès le lendemain pour finalement maintenir sa candidature. 15 jours plus tard, il scelle une alliance inédite avec Vital Kamerhe, qui sera en première ligne tout au long de leur campagne et à qui le poste de Premier ministre a été promis. Réputé plus conciliant que son père, Félix Tshisekedi s'est dit prêt, en cas d'élection, à tendre la main à ceux qui ont gouverné le pays.
Et l'opposant Martin Fayoulou a saisi la Cour constitutionnelle car il conteste le résultat, vous l'avez entendu sur notre antenne. On vous parle aussi des élections législatives et j'adresse un salut à Florence Maurice, notre correspondante à Kinshasa, dont l'accréditation, faut-il le rappeler, a été retirée et elle a dû quitter la République démocratique du Congo. Suite d'une semaine d'actualité, si nous parlions à nouveau, Jean-Pierre Filliu, de ce que Benjamin Netanyahou appelle les infiltrés en Israël.
Donc les infiltrés, c'est la terminologie officielle pour désigner les immigrés illégaux d'Afrique qui, eux, se voient comme demandeurs d'asile. Il faut savoir qu'il y a eu moins de 10 demandes d'asile acceptées en Israël au sein de cette population dont on sait pourtant qu'elle fuit souvent des régimes tout à fait barbares. Ouais. Alors le terme est très lourd de sens en Israël, le terme hébreu, c'est le même terme qui désignait les infiltrés, donc entre guillemets, palestiniens, après la fondation de l'État d'Israël, qui étaient souvent des civils qui essayaient de revenir sur leur terre, dans leur maison, et qui étaient traités donc comme une menace. Et donc ce qu'on voit, c'est le chapitre que je consacre à l'ennemi intérieur, parce que on commence par les Palestiniens, les Arabes d'Israël, les autres Juifs qui s'opposeraient à Netanyahou, mais j'insistais vraiment sur la dimension africaine, parce que bon, l'histoire du peuple juif aurait dû entretenir un minimum de compassion à l'égard de ceux qui sont des damnés de la terre. Et on va voir, bon, c'est moins Netanyahou directement, mais par exemple son actuel ministre de la Culture, qui parle, je cite, d'un cancer dans la nation israélienne, qui dit qu'il faut libérer des banlieues de Tel Aviv. Hein. Donc un langage extrêmement dur, agressif, ouais, qui a d'ailleurs amené à des violences contre ces Africains. Et Netanyahou va mettre en place le premier accord de rapatriement vers des pays tiers de la part d'un pays qui se dit démocratique.
L'Ouganda ou le Rwanda, par exemple.
Voilà, l'Ouganda, ouais, et le Rwanda, dont la plupart de ces entre guillemets infiltrés ne sont pas originaires. Et il faut savoir que ça a donné lieu à de sombres tractations où, en fait, les régimes concernés, donc à Kigali et Kampala, touchaient une somme forfaitaire par tête d'immigrés africains qu'ils recevaient. Donc tout ça maintenant n'a plus cours. Le régime Kagame a compris qu'il en allait de sa crédibilité. Il a donc mis fin à cet accord peu honorable. Et Netanyahou, qui a toujours ses têtes de Turc, a dit que tout ça était la faute de George Soros, donc du philanthrope américain.
George Soros,
voilà. Il l'a accusé d'avoir sabordé l'accord de rapatriement donc entre Israël.
Oui, parce que du jour au lendemain, il a été annulé. C'était très brutal.
Par les autorités de Kigali. Donc, il ne met pas en cause le Rwanda, il accuse Soros, et pourquoi ? Parce que Soros, voilà, il en fait un peu sa bête noire, comme d'ailleurs Orban en Hongrie, comme Trump aux États-Unis. L'idée que Soros serait une espèce de grand chef d'orchestre des immigrations illégales
dans le monde entier,
et du cosmopolitisme. Donc c'est fascinant comment l'Afrique le ramène toujours aux mêmes obsessions.
D'ailleurs, il avait fait en 2016 une tournée fort remarquée en Afrique, Benjamin Netanyahu.
Il s'est beaucoup investi sur l'Afrique, mais plutôt l'Afrique orientale. Et là encore, il y a le mélange des genres, vu que en 2016, il fait cette tournée, il a ce sommet régional avec les différents dirigeants de la zone à l'occasion du 40e anniversaire du raid d'Entebbe, où son frère aîné, Jonathan Netanyahu, avait été tué en combattant l'armée ougandaise, les armes à la main.
Alors partons maintenant pour le Gabon, Jean-Pierre Filu. Après la tentative de coup d'État lundi dernier, à Libreville, Yves-Laurent Goma nous a tout expliqué.
Les mutins ont tenu le Gabon en haleine entre 4h et 8h du matin lorsqu'ils ont réussi à neutraliser les gendarmes de faction à la maison de la radio et pris le contrôle de l'antenne. Ils diffusent en boucle leur message appelant les militaires et les populations au ralliement. Vers 8h, l'armée s'organise. La maison de la radio est bouclée, l'électricité est coupée. À 10h, les premiers soldats pénètrent dans la radio. Les mutins s'enferment dans une pièce. À 11h, la majorité des membres du commando sont arrêtés. Le lieutenant Ondo Obiang-Kelly, porte-parole du mouvement, est introuvable. Vers midi, son interpellation est confirmée. L'intervention s'est soldée par 2 morts parmi les mutins. Les populations des quartiers environnants tentent de converger vers la maison de la radio. Des échauffourées éclatent avec la police, des poubelles et un véhicule sont incendiés sur le boulevard Triomphal. Plusieurs civils sont aussi interpellés. En fin de soirée, aucune information n'était disponible sur le nombre de civils interpellés.
À suivre dans nos journaux et sur le site de la radio www.rfi.fr. La justice malgache a validé mardi la victoire de l'ex-chef de l'État, Ange Radzoen, à l'élection présidentielle du mois dernier, en rejetant sans surprise toutes les accusations de fraude de son rival, Marc Ravalomanan. À Antananarive, Sarah Teto, elle répond à une question à la fois simple et compliquée. Pourquoi ce succès ?
À cette question, il n'y a évidemment pas une réponse unique, mais plusieurs hypothèses. La première, c'est que clairement, Ange Radzoen a envoyé du rêve en organisant une campagne festive permettant aux Malgaches de sortir le temps d'un meeting d'un quotidien miné par la pauvreté. Ces dizaines de promesses, ou plutôt ses priorités, comme il les appelle, semblent avoir été plus attractives que celles de Marc Ravalomanan, plus classiques. Ange Radzoen jouit également d'une plus large sympathie par rapport à son concurrent, plus austère. Par ailleurs, Radzoen a vraiment misé sur la jeunesse. À cette élection, les 18-30 ans représentaient quasiment le tiers des inscrits. Il leur a promis un bel avenir, une stratégie qui visiblement a payé quand on voit l'engouement des jeunes, surtout en province, pour le candidat numéro 13. Enfin, Ravalomanan paye encore le prix de son élection contestée de 2002, où l'île s'était déchirée en deux. Sur les côtes, nombreux sont ceux qui depuis ne veulent plus entendre parler de lui. Radzoen a donc bénéficié des voix contre Ravalomanan. Cependant, n'oublions pas que ce scrutin a connu un taux d'abstention record, quasiment 52%. Si Madagascar compte environ 27 millions d'habitants aujourd'hui, le nouveau président n'aura été élu, lui, que par moins de 10% des Malgaches.
Une semaine d'actualité.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Filu qui vient d'écrire « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». Eh bien nous allons retourner en Israël, Jean-Pierre, avec des soupçons d'ingérence russe dans les élections à venir. Retrouvons Guilhem Deltaï à Jérusalem.
L'information a tout d'abord fait l'objet d'une censure militaire. Finalement, quelques heures plus tard, l'interdiction de publication a été levée et c'est l'une des principales chaînes de télévision du pays qui a rapporté les propos du chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure. Selon Hadashot, Nadav Argaman a la certitude qu'un pays étranger va vouloir intervenir dans le processus électoral israélien. « Je ne sais pas pour quel parti il agira, mais il interférera, je sais de quoi je parle », aurait déclaré ce haut responsable de l'appareil sécuritaire lors d'une conférence à huis clos en début de semaine. Et pour lui, l'attaque s'appuiera sur des cybertechnologies et des pirates informatiques. Le nom du pays désigné par Nadav Argaman reste censuré, mais les regards se sont rapidement tournés vers la Russie, poussant le Kremlin à démentir toute volonté d'ingérence dans le scrutin législatif du 9 avril prochain. Après la diffusion de cette mise en garde, les autorités israéliennes, elles, ont voulu rassurer. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme que le pays est prêt à tout scénario et le Shin Bet estime avoir les outils pour localiser, surveiller et contrecarrer les éventuelles tentatives d'influence étrangère et pouvoir ainsi, dit-il, assurer la tenue d'élections libres et démocratiques en Israël.
Vous avez l'air surpris, Jean-Pierre Filmier, en écoutant cette information.
Complètement, je découvre cette dimension, hein, comme quoi en Israël, on peut s'attendre à tout. Mais effectivement, Netanyahou paye peut-être une certaine naïveté à l'égard de Poutine. Il a souvent cru qu'il avait un dirigeant à son image au Kremlin, aussi brutal, et en même temps aussi couronné de succès dans ses obsessions moyen-orientales et au-delà. Et puis, il était à ses côtés le 9 mai dernier pour la grande parade sur la place Rouge qui célèbre la victoire sur le fascisme. Les Russes ne considèrent pas que le 8 mai est la fin de la guerre, mais bien le 9 mai. Et puis, il s'est rendu compte qu'en Syrie, il s'était fait un peu enfumé par Poutine, qui lui promettait des choses qu'il ne tenait pas forcément, notamment par rapport aux Iraniens. Et en Israël, on a une population russophone très importante et on a un parti qui est totalement dédié à cet électorat. C'est le parti d'Avigdor Lieberman, qui a longtemps été le bras droit de Netanyahou au Likoud, et avant de devenir ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense, et de démissionner avec fracas en novembre dernier. Et aujourd'hui, Lieberman déverse des critiques très acerbes contre Netanyahou, ce qu'il appelle son manque de décision, son manque de fermeté, notamment sur la bande de Gaza.
C'est ce que disait d'ailleurs Sharon à propos de Netanyahou. Vous le citez d'ailleurs au tout début, en exergue du livre, Sharon qui disait de Netanyahou: il est facilement sous pression, il peut paniquer, perdre la raison. Pour diriger un pays comme Israël, il faut du bon sens et des nerfs d'acier de qualité qu'il n'a pas.
Oui, donc dans les deux cas, des personnes qu'on peut difficilement qualifier d'être des pacifistes béats et qui considèrent que Netanyahou n'a pas les nerfs pour des situations de crise.
Jean-Pierre Filu, vous dites très très clairement, et là je vous cite, qu'il y aura dans l'histoire d'Israël le fondateur Ben Gourion et le refondateur Benjamin Netanyahou.
Effectivement, Netanyahou va en mars battre le record de longévité à la tête du gouvernement israélien jusque-là détenu par le père fondateur d'Israël, David Ben-Gourion. Et lui aussi aura imprimé une marque profonde sur le pays. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de lui consacrer ce livre. Et dès l'été dernier, il a fait passer une loi à valeur constitutionnelle. Il n'y a pas de constitution en Israël, mais des lois fondamentales. C'est la loi fondamentale sur Israël comme État-nation du peuple juif. Et de manière très symptomatique, cette loi ne mentionne pas une seule fois le terme « démocratie ».
Merci Jean-Pierre Filu. Votre livre s'intitule « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». Il est publié aux éditions La Découverte. Il va sûrement, il a déjà d'ailleurs été remarqué. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, celui qui interroge ceux qui pensent le monde. Et demain donc, nous parlerons des États-Unis au moment où les représentants élus en novembre dernier entrent en fonction à Washington et en pleine crise du shutdown. Nous serons en compagnie de l'historien et philosophe Dick Howard. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.